Mais d'abord, donc, le Mexique et les États-Unis. Il n'y aura donc pas de guerre commerciale entre les deux pays voisins. Donald Trump a annoncé hier soir à son retour d'Europe les menaces d'augmenter progressivement les droits de douane sur les produits mexicains importés aux États-Unis. Ces menaces sont suspendues. Les premières taxes devaient entrer en vigueur lundi. Un accord a en effet été trouvé entre Washington et Mexico. Mexico s'engage à prendre, je cite, des mesures sans précédent contre l'immigration clandestine. Bonjour Gaspard Estrada.
Bonjour.
Vous êtes le directeur exécutif de l'Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes. C'est à Sciences Po Paris. À qui profite donc cet accord annoncé hier soir?
Alors très clairement, Monsieur Donald Trump avait fait de ce dossier un élément central de sa politique, une politique qui vise à sa réélection l'année prochaine, en 2020. C'est quelque chose qu'il avait déjà mené à bien lorsqu'il avait été candidat lors des élections en 2016. Et donc de ce point de vue-là, je pense que le gouvernement mexicain est plutôt à la défensive.
Ça veut dire que les menaces de Donald Trump ont payé?
Oui, parce que la situation, en quelque sorte, le rapport de force est favorable aux États-Unis. Le Mexique dépend de ses exportations à son voisin du Nord pour pouvoir faire fonctionner son économie. Il est clair que si ces barrières tarifaires avaient été mises en place, il y aurait eu également des conséquences pour les consommateurs américains, étant donné le niveau d'intégration des deux économies. Mais très clairement, le rapport de force était favorable aux États-Unis.
Alors, qu'y a-t-il précisément dans l'accord? On l'a vu tout à l'heure dans le journal avec Juliette Gerbrandt. Il y a quand même un certain flou sur un certain nombre de questions, notamment sur le cas des demandeurs d'asile. Est-ce que ce sera officiellement le cas désormais? Tous les demandeurs d'asile aux États-Unis, tous leurs cas seront examinés au Mexique?
Alors, le flou va persister, puisque à des fins de politique intérieure, M. Trump et l'administration américaine va mettre en avant cet engagement. J'ai des doutes quant à la possibilité matérielle du gouvernement mexicain de mettre en œuvre cette mesure, mais je pense qu'il y a un autre flou aussi en ce qui concerne la demande du Mexique de financer des programmes de développement social, de développement économique dans le sud du Mexique et également dans les pays d'Amérique centrale, puisque l'objectif du gouvernement de Andrés Manuel López Obrador, c'est d'éviter à terme que ces flux existent et que ces régions très pauvres, tant du Mexique que de l'Amérique centrale, aient une véritable croissance économique pour éviter que ces flux migratoires se développe. Et de ce point de vue-là, il existe aussi un flou quant à la volonté et surtout par rapport aux montants qui seront débloqués ou non par l'administration de Donald Trump.
Il y a aussi à la frontière sud l'annonce d'un déploiement de 6 000 hommes de la garde nationale mexicaine. C'est une promesse tenable pour le Mexique?
Compte tenu de la situation actuelle, oui, il s'agit d'une promesse tenable. Monsieur Andrés Manuel López Obrador a mis sur pied cette garde nationale. Il y a plusieurs milliers d'hommes qui sont en cours de formation, donc il me semble qu'il s'agit là d'un objectif raisonnable. La question est de savoir comment fonctionnera sur le terrain cette présence de la garde nationale. Et de ce point de vue-là, il y a, oui, des doutes par rapport au fonctionnement de cette garde nationale.
Et des interrogations aussi sur, on va dire, d'éventuelles atteintes aux droits de l'homme?
C'est malheureusement une situation qui existe et qui se multiplie au Mexique, compte tenu de l'augmentation aussi, il faut bien le reconnaître, du nombre de migrants qui ont traversé la frontière sud du Mexique depuis le début de l'année 2019, avec un record de 144 000 migrants en mai. Et donc de ce point de vue-là, oui, il y a une augmentation de violations des droits de l'homme.
Alors comment cet accord est-il reçu au Mexique. On a entendu l'ancien président Calderón dire qu'au fond, ce sont les États-Unis aujourd'hui qui font la politique migratoire du Mexique.
Malheureusement, M. Calderón est mal placé pour pouvoir mener à bien ce genre de propos, puisque cette situation existe déjà depuis de nombreuses années. C'est notamment sous M. Calderón que les agents de l'agence de migratoire américaine ont reçu l'autorisation de travailler sur le territoire mexicain en quelque sorte en ayant une immunité diplomatique. Et le Mexique, depuis déjà près d'une dizaine d'années, permet aux États-Unis d'agir de manière tout à fait libre sur son territoire, et il me semble qu'il s'agit une fois encore d'une amplification de ce mouvement qui a été engagé depuis déjà de nombreuses années.
Mais au sein de l'opinion publique mexicaine, est-ce que le président Andrés Manuel López Obrador a le soutien de l'opinion publique?
Oui, je pense qu'aujourd'hui, Andrés Manuel López Obrador a réussi à conserver le soutien de l'opinion publique. Il s'agit d'un gouvernement qui est populaire aujourd'hui au Mexique. Monsieur López Obrador a un taux de popularité qui dépasse les 60%, ce qui est quelque chose, qui est un chiffre important par rapport à ses prédécesseurs. La question est de savoir, une fois encore, est-ce que ces chiffres seront durables? Est-ce que d'ici à 2-3 mois, cette situation se maintiendra, ou à l'inverse, cette crise bilatérale aura des conséquences sur la popularité du président López Obrador, notamment s'il n'y a pas de résultats sur le plan économique? Il s'agit là d'une véritable question.
Merci beaucoup, Gaspard Estrada, d'avoir répondu à nos questions. Chercheur à Sciences Po Paris, vous dirigez l'Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes.